Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le jeudi 16 juillet 2020. Christophe Mallet et Jean-Noël Lucas pour vous accompagner en cours de 7h en français sur Radio SBS. Aujourd'hui au programme nous parlerons de vin, un club de vin, et nous parlerons également d'économie pendant cette épidémie ou cette pandémie de Covid-19. Mais pour l'instant, il est l'heure de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Les chiffres du coronavirus dans le Victoria, et c'est le plus grand nombre jamais enregistré en 24 heures dans un état en Australie, avec 317 cas déclarés. Le chiffre du chômage en Australie, ce n'est pas bon et on s'attend même à pire. Et en France, le nouveau Premier ministre qui a fait son discours de politique générale. Débute donc ce journal avec l'annonce du premier du Victoria, des chiffres donc concernant l'épidémie du Covid-19 dans l'État. Dans sa conférence de presse journalière, Daniel Andrews a annoncé le chiffre le plus haut jamais annoncé pour 24 heures depuis le début de l'épidémie, avec 317 cas nouveaux enregistrés. On écoute le premier du Victoria, Dan Andrews.
We have 4,750 cases of coronavirus in Victoria. That is 302 on the total, with some reclassifications, but it is 317 new cases since we last updated you. Of those 317 new cases, 28 are connected and known to be connected to contained outbreaks and complex cases. 289 of those are under investigation by our public health team. I'm very sad to have to report that there have been two further Victorians pass away, bringing the total number of deaths as a result of this virus to 29. The two gentlemen who passed away were in their 80s. I'm not in a position to be able to provide any further information about those cases, but we of course send our best wishes, our thoughts, our prayers to each of those families. This will be a very, very sad and challenging time for them. There are 109 patients in hospital, 29 of those are receiving intensive care. Yesterday we had 28,607 tests that were undertaken. That brings to a total of 1,225,999, the total number of tests that have been undertaken since January 1. As I always do, because it's critically important, can I thank those nearly 29,000 Victorians who came forward and got tested yesterday. It's a massive and powerful contribution to our fight against the virus. You can't contain this if you don't know where it is. And the most important thing for people to do, apart from, of course, following the rules, using common sense and good judgment, is to come forward and get tested if you've got even the most moderate, the mildest of symptoms.
Voilà, donc le premier du Victoria, Dan Andrews. Les chiffres de l'emploi aujourd'hui devraient révéler l'impact économique sévère de la pandémie du Covid-19. Le Bureau australien des statistiques révèle une nouvelle augmentation du taux de chômage. Le trésorier John Frydenberg a admis que le taux réel est probablement supérieur à 13% si l'on tient compte des personnes qui ne travaillent pas ou qui ont abandonné le marché du travail. D'après certains économistes, le marché s'est peut-être stabilisé depuis la publication des chiffres du mois de mai. Mais le taux de chômage devrait encore augmenter à mesure que de plus en plus de personnes recherchent à nouveau du travail. La ministre pour l'Emploi, Michaela Cash, a déclaré sur l'ABC que la Commission nationale des compétences travaillera avec les États pour identifier les domaines où il y a de la demande. On l'écoute.
But I don't think it will be a surprise to anyone to know that certainly the current areas of demand, age, disability and healthcare, mining and resources, construction, ICT, transport and logistics and manufacturing, they are certainly areas that we are seeing growth in at this point in time.
Voilà donc Michaela Cash. Aux États-Unis, alors que l'on se rapproche du nombre de 140 000 décès dus au Covid-19, eh bien l'administration américaine tend de minimiser la rupture avec un spécialiste des maladies infectieuses, personne de premier plan. Les tensions entre l'administration présidentielle et le docteur Anthony Fauci eh bien, se sont intensifiées et détériorées, notamment après que le conseiller du président Trump, Peter Navarro, eh bien, l'ait tout simplement accusé dans un article d'avoir, et je cite, « tort sur tout concernant le coronavirus ». Le président Trump a déclaré que M. Navarro exprimait sa propre opinion et il n'aurait tout simplement pas dû s'exprimer. On l'écoute.
We're all on the same team, including Dr. Fauci. I have a very good relationship with Dr. Fauci, and we're all in the same team. We want to get rid of this mess that China sent us. So everybody's working on the same line, and we're doing very well. We're doing well in a lot of ways, and our country's coming back very strong.
Voilà donc les propos du président américain Donald Trump. De son côté, le docteur Fauci eh bien, a décrit les tentatives de certains dans l'administration Trump de le discriminer comme, je cite, « bizarre ». Il dit que saper sa réputation est une erreur de premier plan. On l'écoute.
« The most important thing to do is to stick to the science and stick to the evidence and avoid at all costs getting involved in any of the political, ideological divisiveness. If you want to get a message across, build up the confidence in others that you are speaking the truth and you are speaking and advising on the basis of evidence and science.
13h07, c'est une tradition en France. Après avoir été nommé, eh bien, un Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son plan de politique générale. Et Jean Castex n'a pas dérogé à la règle. Alors, ce qu'il faut en retenir de cette allocution de près d'une heure, Anne Souhaiton nous explique tout ça.
L'ambition affichée par Jean Castex est claire, réconcilier la France, les Frances rurales, périphériques, des banlieues et la France qui réussit. Pour cela, une méthode, la concertation et la décentralisation qui va connaître une nouvelle étape. Il nous faut réarmer les territoires, insistait le Premier ministre. Bref, une méthode nouvelle revendiquée pour lutter d'abord, et c'est la priorité numéro un du gouvernement pour les 18 prochains mois, contre le chômage, avec un plan de relance chiffré à 100 milliards d'euros. Mobilisation pour l'emploi des jeunes, avec des repas à 1 euro pour les boursiers, pour l'industrie, cette crise a révélé notre dépendance et notre trop grande absence des secteurs stratégiques, assume Jean Castex, pour la santé et pour le climat. Je crois à la croissance écologique, pas à la décroissance verte, a lancé le Premier ministre, qui consacrera 20 des 100 milliards d'euros du plan de relance à la transition écologique. Un discours de politique générale soumis à un vote de confiance voté par 345 députés, soit une majorité large, mais c'est tout de même 25 voix de moins qu'Édouard Philippe en 2017.
Et c'était les explications d'Anne Souhaiton pour RFI. Revers sérieux pour l'Union européenne. En effet, la décision d'infliger une amende à la société Apple envers l'Irlande pour non-respect des lois fiscales et de la compétition eh bien, a été rendue invalide. Le montant qui était réclamé était de 13 milliards d'euros tout de même. Pierre Benazet.
Pour la Commission européenne, c'est un grave revers. Pour sa commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, c'est un véritable camouflet. Elle mène depuis 6 ans une croisade contre les multinationales accusées d'abuser de leur position dominante et s'attaque de front à la compétition fiscale que se livrent les États de l'UE pour les attirer sur leur sol. Margrethe Vestager tient à justifier la décision prise il y a 4 ans et rappelle que, par exemple, en 2011, la base imposable d'Apple avait été fixée à 50 millions d'euros alors que la marque à la pomme avait enregistré 16 milliards d'euros de bénéfices en Europe. Le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, estime que ce n'est pas une seule décision qui va entamer la résolution de la Commission, mais lui, qui est particulièrement chargé des efforts pour un compromis mondial en vue de la taxation du numérique, ne va pas voir sa tâche facilitée. C'est en revanche une grande victoire pour Pascal Donohoe, président depuis peu de l'Eurogroupe. Comme ministre irlandais des Finances, il avait bataillé contre l'obligation de récupérer ses 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts, de peur de voir les autres multinationales fuir l'île.
Et c'était Pierre Benazet pour RFI. La Chine a lancé un avertissement à la Grande-Bretagne concernant sa décision d'interdire la société de télécommunications Huawei. Mardi, donc le 14 juillet, le gouvernement britannique avait annoncé que l'achat de nouveaux équipements Huawei 5G serait interdit à partir du 31 décembre. Tous les équipements Huawei doivent également être retirés des réseaux britanniques 5G d'ici à la fin de 2027. Répondant à cette décision, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Yue Qingbing, a mis en doute la capacité du Royaume-Uni à fournir un environnement commercial équitable aux entreprises chinoises. On l'écoute.
China is seriously concerned about this and reminds all Chinese enterprises to attach great importance to the increasing political and security risks while doing business in the UK. China will fully and seriously evaluate this incident and take all necessary measures to safeguard the legitimate rights and interests of Chinese enterprises.
Direction et retour aux États-Unis maintenant, et la nièce de Donald Trump qui a décrit son oncle comme, je cite, totalement incapable de diriger le pays après qu'un tribunal ait levé la demande de censure de son livre sur le président américain. Marie Trump, qui est une psychologue, dit que le président a toutes les descriptions d'un narcissique. Dans une interview avec George Stephanopoulos d'ABC America, Marie Trump a déclaré qu'il serait dangereux de permettre à son oncle de continuer à présider. On l'écoute.
Based on what you see now or what you saw then?
Based on what I've seen my entire adult life.
What do you want to happen now?
This country is on a precipice, and we have a decision to make in the not too distant future about who we want to be and where we want to go as a country. It's hard for me to process just how many awful things are going on simultaneously on a daily basis.
L'ambiance aux États-Unis. Un mot de sport pour finir ce journal. Et le Queensland qui se dit prêt à accueillir la grande finale d'AFL. Les 10 clubs du Victoria seront basés dans le Queensland pendant au moins 10 semaines, les 10 prochaines semaines. La première ministre de l'État, Anastasia Palaszczuk, a déclaré sur ABC qu'elle avait demandé au chef, au patron de la ligue d'AFL de considérer Brisbane comme lieu pour la grande finale. On l'écoute.
I think that's only fair. But of course, it's going to depend on what's happening in the other states during that time, and we will enter those negotiations seriously. We firmly believe that Queensland could host it here.
Voilà donc pour le sport. Retour complet sur le sport et sur l'actualité sportive, notamment le football, avec Jean-Noël Ducasse dans quelques instants après ce journal. Coup d'œil météo pour aujourd'hui à travers le pays. À Perth, il fera 21 degrés. Adélaïde, 16. Melbourne, 13. Hobart, 11. Canberra, 13. Sydney, 17. Newcastle, 16. Brisbane, 22. Cairns, 26. Et Darwin, 32 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, on l'a vu dans ce journal, le chiffre du coronavirus dans le Victoria est le plus grand nombre jamais enregistré en 24 heures dans un état, avec 317 cas déclarés hier. Les chiffres du chômage en Australie qui ne sont pas bons et on s'attend même au pire en progression. Et la France, on l'a vu dans ce journal également, le nouveau Premier ministre a fait son discours de politique générale. 13h13, courte pause et on retrouve Jean-Noël dans quelques instants pour le sport. À tout.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Le journal des sports de ce jeudi en Liga en Espagne. Il ne reste que 2 matchs de la saison. Le Real de Madrid joue ce soir contre Villarreal. Le Real de Madrid a 4 points d'avance sur le FC Barcelone qui jouera vendredi soir contre Osasuna. Est-ce que le Real de Madrid peut être sacré champion? Écoutez l'extrait de Radio Foot International avec Hugo Moissonnier, les consultants Franck Simon, Gilles Verdez et Naïm Moniol.
Est-ce que ce sera le match du titre pour la bande à Zizou?
A priori, oui. Match à domicile, qui plus est. Moi, ce qui m'a surtout épaté encore hier et puis sur les matchs précédents, c'est que le Real, il s'est gagné en n'étant pas forcément bon, en tout cas pas bon une heure et demie. Donc il est en difficulté, il concède des occasions, il est un peu large derrière, mais il gagne. Donc voilà, quand vous avez ce genre de dynamique, quand vous êtes capable sur 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes de tuer n'importe quelle équipe, oui, vous finissez champion. Puis le Barça a tellement montré de carence dans beaucoup de domaines que je vois pas comment ils peuvent inverser la situation sur les deux prochaines semaines.
Tout le monde est d'accord. Vendredi, on verra un Rémy Nguno triompher sur le plateau du Café des Sports après le sacre de son Real Madrid.
Mais certainement, bon courage à vous donc. Hein.
Moi, j'y serai pas. Gilles Verdez.
Il n'y a aucun doute, ce sera en plus au stade Di Stefano où il joue en ce moment depuis la fin du confinement, donc ce sera comme un symbole. Il n'y a pas de rival effectivement puisque Barcelone s'est effondré, donc ce sera le match du titre. Et s'il le faut, il y aura un pénalty généreusement donné pour...
je vois que
Gilles, Gilles
est très observateur de ce qui se passe là-bas depuis quelques semaines.
Il n'y a pas que ça, bien entendu, dans les succès du Real, mais il y a aussi ça. Et puis il y a Benzema qui pour moi joue au niveau d'un ballon d'or.
Et puis, oui, ça pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, faut quand même, c'est une certaine logique aussi. C'est-à-dire que vous avez une équipe du Real qui n'a pas tout bien fait cette année, mais qui en tout cas a déjà fait mieux que le Barça, et puis qui finalement a réussi à trouver un rythme de croisière en gagnant beaucoup de matchs, en marquant beaucoup de buts, en étant très solide derrière. Gilles dit Benzema joue à un niveau de ballon d'or. Ramos aussi joue à un niveau de ballon d'or depuis le retour du confinement. Bon, ils ont un banc de touche, il y a un super entraîneur, ils ont bien géré tout ce qu'il fallait, la préparation avant le Covid, après le Covid. Tout, en fait, ils savent faire tout mieux ce que fait le Barça, qui, je le rappelle, sous Valverde était quand même premier, puis qui finalement maintenant est deuxième, soit dit en passant.
On rappelle que le Barça, jeudi, affrontera dans le même temps, au même moment que le Real affrontera Villarreal, Osasuna. Oui. Bon, a priori, le Barça devrait s'en sortir, mais on voit mal Villarreal poser des problèmes au Real Madrid, Gilles Verdez.
Et puis, au Real, vous avez à la fois la juxtaposition de talents individuels extraordinaires, y compris Mendy qui se révèle là sur un match avec une performance et un but fabuleux, et vous avez aussi un collectif façonné par Zidane et un état d'esprit. C'est-à-dire que même dans leur temps faible, là, ils ont été très bons avec de la possession en première mi-temps, et même dans les temps faibles, ils prennent qu'un seul but sur les 6 derniers matchs, c'est-à-dire qu'ils arrivent à gérer, ils arrivent à mentalement, grâce à Zidane à mon avis, à être bien supérieurs à leurs adversaires. Lorsque leurs adversaires sont forts, ils n'arrivent quand même pas à marquer.
Manchester United en Angleterre a raté la chance de passer à la troisième place mardi après un match nul 2-2 avec Southampton. Écoutez le capitaine des Mancuniens, Harry Maguire.
Nous sommes déçus. Nous avons contrôlé le match, eu beaucoup d'occasions de le plier, mais nous n'étions pas à notre meilleur niveau. Il y a des choses sur lesquelles nous devons nous améliorer. Nous n'avons vraiment pas été bons les 20 premières minutes. On leur a donné un but. Et puis, on s'est remis dans le match. En deuxième période, nous n'avons pas assez gardé le ballon. On leur a trop vite rendu. On s'est mis peut-être un peu trop de pression, mais on pensait que ça serait suffisant pour gagner à la fin. Nous aurions vraiment dû tuer le match avec un troisième but.
Que pense Gilles Verdez, consultant de Radio Foot International, qui est avec Hugo Moissonnier sur la performance de Manchester United?
Les trois rencontres qui restent à jouer en Première Ligue pour les Red Devils, Crystal Palace, jeudi West Ham et Leicester, l'un des concurrents directs pour le Big Four lors de la dernière journée. Gilles Verdez.
Alors, avec l'effectif qu'ils ont, je suis assez d'accord avec Naïm, c'est le meilleur milieu de terrain du monde pour moi en ce moment, Manchester United, avec celui du Real. En attaque, il y a quand même un potentiel Bayern, extraordinaire. En défense, c'est pas tout à fait calé. Mais si vous mettez Zidane là, à la place de Solskjaer, ils sont pas loin d'être champions d'Angleterre.
Et tu mets où Solskjaer? Tu le mets sur le banc du Real?
Ah non, pitié pour le Real.
Vous ne l'aimez vraiment pas ce...
Non, je suis objectif.
Cet ancien babyface killer, le tueur au visage de bébé. Manchester United, qui a longtemps été connu pour former ses joueurs et qui en a même conservé certains pendant très longtemps. On pense à Giggs, on pense à Scholes, c'était vraiment une autre époque.
Chelsea a battu Norwich 1-0 et garde la troisième place. Hier, 4 matchs de la 36e journée et Liverpool battu 2-1 par Arsenal, 9e au classement. Les Gunners qui restent en course pour une qualification européenne. À noter aussi que Manchester City, 2e au classement, a battu Bournemouth 2-1. Manchester City jouera les Coupes d'Europe en 2021 après une levée des suspensions. Manchester City avait été exclu des Coupes d'Europe pendant 2 saisons par l'UEFA pour non-respect du fair play financier. Le tribunal arbitral du sport a levé la suspension lundi dernier. Écoutez Marie-Amélie Motte et Alejandro Valente de l'émission Radio Foot International.
Manchester City's two-year ban from European football has been lifted.
Le tribunal arbitral du sport a annulé la suspension de Manchester City qui était exclu pour 2 ans des Coupes d'Europe. City sera donc présent en Ligue des Champions à la rentrée. Réfé, est-ce que vous pouvez nous rappeler le déroulement de la procédure? Donc je rappelle que l'UEFA considérait que City avait enfreint les règles du fair play financier.
Voilà, alors on va dire que l'origine de l'affaire remonte à novembre 2018. Des documents fournis par Football Leaks semblent prouver que Manchester City a trafiqué ses contrats de sponsoring entre 2012 et 2016 afin de tromper la vigilance du fair play financier de l'UEFA. Il s'agit notamment d'un contrat avec Etihad Airlines qui aurait en réalité été abondé par le propriétaire du club. Manchester City dénonce une campagne contre l'image du club à partir des documents volés. Effectivement, les documents provenaient d'un vol de documents et sortis de leur contexte. L'UEFA lance une enquête et en février dernier, elle décide d'exclure le club des compétitions européennes pendant 2 saisons avec à la clé une amende de 30 millions d'euros. Les TAS vient finalement de donner raison à City, estimant que les preuves de la tromperie ne sont pas établies ou ont prescrit et qu'une exclusion des compétitions serait trop sévère alors que la seule faute prouvée est de ne pas savoir coopérer avec les contrôleurs financiers de l'UEFA. Il annule ainsi la suspension de 2 ans et réduit l'amende de 30 à 10 millions d'euros.
En Italie, on notera la victoire mardi de l'Atalanta contre Brescia, 6-2. L'Atalanta en forme et qui jouera le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions le 12 août prochain. Hier, la Juve de Turin, premier au classement, et Sassuolo, 8e, ont fait match nul, 3-2.
Votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
C'était Clara Luciani, bien entendu, chanson que vous connaissez, La Grenade. 13h25, courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler d'économie, surtout d'économie en temps de pandémie du Covid-19, tout de suite après ça.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Pendant la crise du coronavirus, tous les États ont massivement emprunté pour soutenir coûte que coûte leur économie laminée par le confinement. Le prix à payer, c'est une dette astronomique dont on ne sait pas encore vraiment qui va la rembourser et comment.
Oui, d'après le FMI, l'ensemble des pays ont en moyenne dépassé le ratio des 100% de dette rapportée au PIB. En Occident, c'est beaucoup plus. Dans les pays développés, la dette publique culmine à 120% du PIB. C'est une moyenne. Ce pic n'avait pas été atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. La crise du coronavirus a rendu muets les partisans de l'orthodoxie budgétaire. La dépense publique et son corollaire, l'emprunt, sont apparus comme les seuls instruments viables pour soutenir les ménages, les entreprises, les services publics, tous totalement laminés par le confinement. Maintenant que le gros de la crise sanitaire est passé, les questions sur la gestion de cette dette faramineuse commencent à fuser, ou plutôt les propositions. L'annulation pure et simple de la dette est devenue le mantra de quelques économistes et d'une partie de la classe politique française, de droite comme de gauche.
Mais c'est une option sérieusement envisagée?
Eh bien écoutez Grégory, c'est une solution étayée par l'histoire et même par la tradition biblique. Car dans l'Ancien Testament, cette pratique revient tous les 50 ans pour remettre les compteurs à zéro. Dans l'histoire réelle et récente, cela a déjà été expérimenté avec succès par l'Allemagne en 1953. Ses créanciers externes renoncent à la moitié de ce qui leur est dû. Les pays les plus pauvres en ont bénéficié à partir de 1996 dans le cadre du programme chapeauté par le FMI sans que cela ne débouche sur une crise quelconque. Il y a donc un savoir-faire et sans doute des modalités à imaginer pour la situation actuelle.
Mais Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a écarté toute annulation totale de la dette des États européens.
Oui, elle est dans son rôle de gardienne de la monnaie. Hein. C'est vrai qu'une opération d'annulation totale aurait des effets déstabilisants sur les États membres de la zone euro. Qui voudra par la suite prêter à des États qui ne rembourseront pas, ce serait prendre le risque de faire monter considérablement les taux d'intérêt, c'est-à-dire le loyer de l'argent. Car si la dette est astronomique, son service est encore modique en Occident. La faiblesse des taux d'intérêt allège le service et la conscience des responsables des finances publiques. Et puis si les grands argentiers ont joué les pompiers des finances mondiales, quasiment sans discontinuer depuis 2008, c'est en rachetant massivement la dette des États. Annuler cette dette, eh bien, cela revient à démonétiser une partie de leur action. Ils sont d'ailleurs aujourd'hui les principaux détenteurs de dettes souveraines, une forme d'assurance tout risque contre les crises financières qui protège les États très endettés. Pour eux, l'annulation est loin d'être une urgence impérative.
Alors, Dominique, si l'annulation de la dette n'est pas d'actualité, qui va payer l'addition ?
Eh bien, il n'y aura pas d'augmentation des impôts, disent la plupart des gouvernements, pour rassurer leurs électeurs et aussi pour stimuler le retour de la confiance. C'est l'ingrédient indispensable de la reprise. Sans répondre pour autant à la question qui fâche. Les gouvernements préfèrent imaginer des astuces comptables pour cacher cette dette qu'on ne saurait voir sans frémir. En France, par exemple, le gouvernement propose d'isoler une partie de cette dette Covid dans une structure ad hoc. Reste à savoir comment la rembourser. L'impôt levé pour combler le trou de la Sécu, qui devait expirer en 2033, pourrait être prolongé jusqu'en 2042. Affaire à suivre.
En bref, Dominique, en France, record battu pour le contrôle fiscal en 2019 avec des recettes qui s'élèvent à 12 milliards d'euros.
Oui, la lutte contre la fraude aux impôts a rapporté 2 milliards de plus qu'en 2015, année du précédent record. Cette année, le confinement a fortement réduit l'activité des inspecteurs.
Et Tesla devient la première capitalisation boursière du secteur automobile.
La firme spécialisée dans la voiture électrique confirme son parcours stellaire à Wall Street. Pas vraiment en rapport avec ses résultats. Elle fabrique seulement 4% du volume de voitures de Toyota qu'elle vient de détrôner. Son modèle intégré 100% électrique suscite l'engouement des investisseurs.
Merci Dominique Bayard. C'était aujourd'hui l'économie.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
C'était bien entendu Benjamin Biolay, Palermo Queens, qui est extrait de son album précédent. Il a un tout nouvel album qui est sorti, qui vaut vraiment le détour. L'album s'appelle Grand Prix. Je vous le conseille très, 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 très fortement. Allez, 13h34, courte pause, et on revient dans quelques instants pour la suite du programme en français sur Radio SBS.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Allez, aujourd'hui, dans le programme, on a le plaisir de parler à Alexandre Rougeau. Salut Alexandre.
Salut Christophe.
Et on va parler de vin parce qu'Alexandre Rougeau, c'est Clos Cachet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous êtes déjà passé plusieurs fois à l'antenne. Et je voulais qu'on se parle aujourd'hui parce que deux choses. Déjà, un, parler de l'après-Covid et de la situation pour vous. Mais aussi, vous avez lancé, peut-être ce qui fait partie de votre solution, le club du Clos Cachet.
C'est exactement ça. Disons qu'on a, dû repenser un petit peu notre schéma, étant donné que Covid a été... Un traumatisme pour notre société Clos Cachet qui, certes, s'occupe beaucoup de clients privés, mais aussi, et c'était avant Covid, à 80% pour la restauration, avec qui on garde évidemment un lien très fort. Mais ça a été une rupture très forte lorsque tous les restaurants ont été fermés par le gouvernement.
Ça s'est passé très vite en plus, hein, entre le moment où la décision a été prise et le moment où ça a été fermé. On a peut-être pas forcément eu le temps de se retourner.
Non, c'est vrai. En quelques semaines, en fait, on commençait à voir les premières restrictions se mettre en place et on se disait, bon, effectivement, ça va nous impacter, mais les restaurants resteront ouverts éventuellement et on aura un peu le temps de voir venir les choses. Et le temps que les restaurants s'adaptent, En fait, quelques jours après, c'était la fermeture totale des restaurants. Et à ce moment-là, pour nous, ça a été une chute complète de notre revenu. Et on a dû tout repenser et se mettre dans le et aller de l'avant grâce à notre expertise, à nos. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que le cachet. On a la chance d'avoir un beau réseau et disons une certaine expertise du marché, une sélection de vins qui est vraiment unique. Et disons qu'on avait tous les atouts pour pouvoir lancer quelque chose de génial, de marrant, de facile. C'est le club aujourd'hui.
Voilà, alors parlez-nous un petit peu du club, parce que c'est né, je suppose, ou en tout cas, ça a été accéléré par la crise du coronavirus.
Bah, disons que on voulait créer quelque chose qui était une expérience très nouvelle pour le consommateur. On a allié notre savoir-faire avec la restauration, les sommeliers et les grands chefs, avec aujourd'hui une clientèle qui se dirige de plus en plus vers la consommation de contenu en ligne. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas mettre tout le monde sur la même ligne et créer un abonnement vin. Donc, c'est mensuel. On s'abonne pour quelque chose qui arrivera tous les mois. On peut évidemment ensuite mettre en pause ou arrêter quand on veut. Cependant, c'est une manière de faire tomber un peu les barrières. Le vin français dans la majorité du conscient australien est très accepté. Cependant, c'est pas toujours facile d'acheter des vins français puisque c'est très compliqué. Tout simplement, on revient à la même chose. C'est cette complexité. Donc, le club, on veut faire tomber les barrières, donner une entrée qui est, pour ceux qui vont se diriger sur le site internet, on a vraiment un texte qui allie le côté marrant avec évidemment notre expertise, donc c'est très sérieux pour la qualité. Par contre, on l'amène d'une manière très, très sympa et élégante.
Ce club en lui-même, en fait, est-ce que pour vous, c'est un des canaux de diffusion ou vous pensez que ça peut redevenir ou devenir peut-être le principal canal de diffusion?
Effectivement, c'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on en reparlera dans quelques années, mais je pourrais être très surpris. Je pense qu'on a la clientèle aujourd'hui qui veut acheter des vins de qualité. On veut pas être le supermarché de l'abonnement vin. On veut vraiment faire quelque chose qui est de qualité, mais reste abordable. On parlera ensuite des différentes offres. Mais je pense que demain, de plus en plus, et Covid a accéléré ça, nous tous, on a compris qu'on n'avait peut-être pas besoin de toujours prendre la voiture pour aller faire certaines choses. On a un écran, on a une connexion Internet, on peut se fournir les choses et on peut s'éduquer en ligne et on peut vraiment avoir une expérience qui est superbe de ce côté-là. Et c'est grâce à ça que l'on a mis sur pied le club. C'est une vidéo de dégustation qui est détendue. Donc, je suis avec Tristan, qui est un ancien sommelier de Andrew McConnell et Scott Pickett, qui a rejoint Clos Cachet en septembre dernier. Donc, il a un très bon nez. On fait la sélection ensemble et on goûte les vins en vidéo pour les abonnés. Et tous les mois, ils pourront donc recevoir leurs vins avec une recette d'un grand chef, d'ailleurs deux recettes par mois, une entrée, un plat ou alors un plat et un dessert. Et ils pourront donc se mettre à cuisiner, mettre la vidéo sur la télé s'ils le souhaitent, et puis apprendre à propos de ces vins, des régions, la spécificité des producteurs, qu'est-ce qui fait que spécifiquement ces bouteilles sont vraiment à un niveau qualitatif très très haut, et tout ça dans le confort de chez soi et en toute simplicité avec un abonnement.
D'accord, et si on parle de l'approvisionnement pour vous, est-ce que ça a été aussi un problème pendant le Covid parce que le business s'est arrêté un peu partout? Est-ce que ça a été aussi le cas pour vous? Est-ce que c'était compliqué même simplement de faire rentrer les choses dans le pays?
Alors, on a eu une chance, c'est que les choses rentraient toujours dans le pays. On a eu des retards, certes. Cependant, on avait toujours la capacité de les faire rentrer. La difficulté se trouvait plus, en fait, au niveau des producteurs de vin eux-mêmes. Beaucoup de structures n'avaient pas la chance d'avoir leurs employés pour pouvoir préparer les commandes. Les cuveries étaient fermées. Et c'est vrai que ça nous a retardé de quelques mois aujourd'hui pour recevoir des vins. Dans un sens, c'était nécessaire aussi puisqu'on n'avait plus du tout la même capacité d'achat à cause de l'arrêt de l'activité, en tout cas la diminution. Ça nous a, disons qu'on était un peu sur la même page. Aujourd'hui, tout reprend d'une manière plus normale en France. On a donc des approvisionnements qui recommencent petit à petit. Ce qui était difficile à gérer, en fait, c'était surtout l'effet accordéon. Lorsque les restaurants ont été fermés, notre activité a chuté, mais on avait toujours des bateaux sur la mer qui arrivaient et on a reçu des containers alors que rien ne sortait, tout rentrait. Notre entrepôt est plein à craquer et
là on commence à transpirer.
Ouais, on commence à transpirer, on voyait l'argent qui sortait et peu qui rentrait. Et effectivement, heureusement que Clocachet était solide et qu'on avait la capacité de le faire, sinon ça aurait pu nous mettre en danger, ça c'est sûr.
Absolument. Allez, vous nous rappelez le site internet où on peut avoir plus d'infos?
Donc c'est leclub.com.au. On a trois différents abonnements, ça commence à $98, on reçoit deux belles bouteilles, dès qu'on s'inscrit, on a deux très beaux verres en cristal de chez Grassol qui seront livrés aussi, on a les notes de dégustation, on a la recette pour le premier mois, c'est-à-dire si on s'inscrit ce mois, c'est Philippe Mouchel, notre chef français préféré et le plus talentueux qui a préparé ces recettes pour nous, et donc on peut ensuite monter à $198 pour trois belles bouteilles et puis $368 pour quatre très très belles bouteilles et bien entendu toujours la vidéo, l'éducation, le côté fun et se faire plaisir avec une expérience française pour ceux qui le souhaitent.
Merci Alexandre.
Ben, merci beaucoup Christophe en tout cas. Bonne continuation.
Merci vous aussi.
Merci, au revoir.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h. Ou à tout moment, en ligne.
Et c'était Clarica avec ses chansons Le Désamour qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de juillet. 13h47, on va parler à Ben Lonclosol maintenant.
Vous êtes avec SBS French.
Eh bien aujourd'hui, dans le programme en français sur Radio SBS, on a le plaisir d'avoir quelqu'un qu'on a déjà eu sous le nom de Ben Lonclosol, mais cette fois-ci, il nous rejoint sous le nom de Ben. Salut.
Salut Christophe.
Alors bah ouais, déjà changement de nom depuis les tout débuts, c'était Ben Lonclosol, et aujourd'hui vous sortez un quatrième album donc qui s'appelle Addicted to You sous le nom de Ben.
Ouais, bon, j'avais envie de simplifier quoi.
Ouais, c'était plus simple pour tout le monde.
Exactement. Ouais, surtout pour les étrangers, quoi. Le Ben Lonclosol, c'était pas le truc le plus simple du monde.
D'accord, ouais. Parlez-nous un petit peu de cet album, justement, parce que c'est vrai que c'est encore de la soul, mais il y a peut-être un virement un petit peu quand même dans la musique. Ça fait quand même une bonne dizaine d'années maintenant que vous êtes sur la scène. Il y a un peu un changement d'inspiration. Comment est l'univers de Ben par rapport à Ben Lonclosol?
Disons que Ben Lonclosol, c'était essentiellement vintage. C'est indépendant de la musique que j'adore. C'est la musique authentique des années 60 afro-américaine avec, on va dire, un penchant pour la soul, le funk, le blues. Mais Ben, c'est pas seulement ça, en fait. C'est plus un gamin qui a grandi dans les années 90 avec aussi le R&B et le hip-hop américain et français. Et du coup, c'est plus le résultat de ça. Il y a plus de mélange, en fait, finalement.
Parce qu'au tout début, vous aviez été signé sur un label comme Motown, qui est quand même un label mythique de la soul. C'était une super rampe de lancement pour même créer un peu ou refaire vivre un petit peu la soul en France, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Ça n'existait plus forcément beaucoup.
Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est, je pense, ce qui a valu le succès de mon premier disque. C'est que finalement, on arrivait avec une couleur de musique qui était un peu démodée, qu'on a un peu dépoussiéré, on a remis de la fraîcheur là-dedans, y compris dans la méthode de production, et puis c'est vrai qu'on avait des bonnes chansons en français, et ça a plu, ça a fonctionné comme ça. J'aime bien souvent le remettre avec en perspective avec l'album de Amy Winehouse de Back to Black qui avait vraiment cartonné dans le monde entier. Et c'est vrai que je pense que de ce côté-là, elle nous avait aussi ouvert des portes.
Ouais, c'était vraiment un vent, en fait, vers un retour vers le jazz et vers cette soul, ouais, des années 60, soul américaine, alors qu'en fait, ni vous, ni Amy Winehouse étaient américains.
Non, déjà, elle, c'est une Anglaise, mais aussi, il y a ce truc qui vient du reggae. En fait, quand on écoute, je pourrais en parler des heures, parce que j'adore cet album et j'adore les gens qui l'ont produit, Back to Black, mais elle, en fait, cet album, c'était essentiellement du reggae ska. C'était des petites compositions reggae ska qu'elle avait faites, comme ça, avec ses potes. Et quand Mark Ronson est tombé là-dessus, il a dit non, c'est pas du reggae ska que tu vas faire, en fait.
Ouais, c'est un album extraordinaire, par une artiste qui est complètement, totalement regrettée aujourd'hui. Si on parle de l'évolution de vous, en fait, aujourd'hui, sortir cet album en 2020, le cheminement pour vous, il veut dire quoi cet album pour vous ?
Bah, c'est vrai que c'est un virage. Alors, comme je l'expliquais, moi, en gros, ça fait 10 ans, je fête mes 10 ans là aujourd'hui, donc de music industry, comme on dit. Et en fait, j'ai toujours, on va dire, creusé du côté du vintage. Mon deuxième album qui s'appelle À coup de rêve, je suis parti l'enregistrer aux États-Unis, en Californie, avec cette idée d'aller encore plus loin dans le vintage, d'aller choper des gars qui, pour le coup, un peu comme les Dap Kings ou ce genre de groupe aux États-Unis, comme les Manhattan Street Band ou des gens qui ont vraiment le son vintage avec un système d'enregistrement et des machines et un studio qui est complètement dans l'utilisation, on va dire, que comme ça se faisait à l'ancienne. Donc je suis allé loin dans ce délire là et puis en fait mon avant-dernier album, c'était un hommage à Sinatra. J'étais déjà en train de prendre un virage dans la moderne, en fait, en allant chercher le jazz. Moi, c'était un hommage à Sinatra et aux grandes compositions jazz de l'American Songbook. Et en gros, le fait d'avoir basculé au jazz chez Blue Note et non plus d'être chez Motown Universal, ça m'a aussi donné envie de faire un clin d'œil au jazz. Et dans le jazz, je me suis rendu compte que c'était complètement moi, en fait. Le jazz, c'est une musique d'improvisation, c'est une musique de mélange, et j'ai beaucoup de mélange, en fait, dans mes influences musicales. Et voilà, aujourd'hui, je crois que je les assume pleinement. Donc, cet album, il y a un peu tous les univers qui me font vibrer encore aujourd'hui, 10 ans après, c'est-à-dire des influences reggae raga, des influences hip-hop, des influences de jazz, des influences de soul music et j'allais dire de country, parce que c'est presque lié, et du blues, et puis bon, ma voix qui fera toujours le lien, on va dire. Mais je m'amuse, en fait, sur tous ces terrains-là. Et dans les méthodes de production, etc. On a même pris des trucs de trap complètement d'aujourd'hui. Donc moi je suis métisse et en fait je pense que j'avais trop essayé de d'occulter toute une partie de ma personnalité et de ma sensibilité parce que j'étais ce soulman qu'on m'a décrit sur ce premier album. Et quelque part, sans faire même attention, mais je me suis un peu enfermé dans ce truc du soulman. Du coup, voilà, j'avais envie de renaître.
D'accord. Ouais. Et avant de parler de sortir un album en 2020 et tout ce qui est de l'après-pandémie, etc., quand on voit aujourd'hui le mouvement Black Lives Matter à travers le monde, la soul a longtemps été, et le jazz d'ailleurs entre guillemets aussi, ont longtemps été la voix du peuple afro-américain, une voix de rébellion, une voix de communication. Aujourd'hui, il y a des similitudes. Vous sentez un petit peu des similitudes avec ce qui se passe aujourd'hui sur ce mouvement-là ?
En fait, oui, on est sur un espèce de retour de bâton qui fait que les choses qui n'ont pas été réglées ressurgissent. Hein. C'est souvent le cas dans tous les domaines. Et là, c'est le domaine de la souffrance d'un peuple à qui on n'a jamais redonné de richesse, à qui on n'a jamais donné de la compassion, j'allais dire. Donc c'est normal aussi de vouloir aujourd'hui régler un petit peu tous ces problèmes-là. Moi, je pense que moins les gens vont les écouter, moins les gouvernements vont appliquer donc des mesures pour rétablir. Plus violent, ça va ressortir, en fait. Donc on a plus intérêt aujourd'hui à vraiment écouter ce qui se passe, aller au fond des choses et voilà, et continuer le dialogue, parce qu'il est encore carrément possible, en fait. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont en train de déboulonner des statues parce qu'elles correspondent plus du tout aux images qu'on a envie de se donner de notre république ou de notre nation que ça veut dire que le pays est à feu et à sang, et que et qu'il n'y a plus rien comme connexion entre les individus et les humains. Enfin, je pense foncièrement que bon, déjà le déboulonnage des statuts, ça s'est fait de tout temps et à toute période. Donc, quand il y avait des statuts de Staline et de Hitler, il a fallu à un moment donné les déboulonner. Ça les effacera jamais de l'histoire. Hein. C'est juste que ça rétablit un petit peu ça réouvre le champ de vision à quelque chose de plus positif et en tout cas de balayer un petit peu le passé, quoi.
Si on parle de l'année 2020 en tant que telle, cette pandémie, quand on est artiste et qu'on a décidé, je suppose que c'était pas du jour au lendemain de sortir un album en 2020, c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, tout ça. On a sûrement qu'une envie, c'est déjà un artiste comme vous, d'aller tourner cet album, d'aller le sortir, d'aller rencontrer les gens, parce que c'est comme ça qu'il faut que ça se solutionne.
Exactement, et du coup, on a choisi l'Olympia. On s'est dit que c'était pas mal comme endroit pour faire une fête de ouf. Et ce sera en janvier 2021. Du coup, c'est aussi un petit peu pour tourner la page avec 2020, même s'il reste 6 mois à vivre. Hein, mais c'est juste que pour les concerts, le spectacle, c'est un peu compliqué. Donc, on préfère voir un petit peu large. Et oui, j'ai sorti l'album pendant le confinement. En fait, pour moi, ça a été une période assez intéressante de se retrouver comme ça à huis clos un petit peu. Forcé d'être à l'atelier, de travailler, de réfléchir à comment sortir l'album, quoi faire pour accompagner l'album. D'habitude, on se pose pas la question parce qu'on est parti sur les routes, on est en concert et c'est notre manière à nous de défendre nos albums, c'est de monter sur scène et de les chanter avec les gens. Et là, pour le coup, privé de ça, il fallait trouver aussi d'autres méthodes. Et bon, on a fait quelques petites vidéos sur les Instagram et Facebook. Et c'est plutôt sympa parce qu'en fait c'est des choses qui vont rester. Les gens nous continuent de les commenter ou de nous envoyer des messages en disant oh, quand est-ce que vous refaites une session comme ça, des choses comme ça. Bon, du coup ouais, c'était assez enrichissant et moi j'avais vraiment envie de le sortir à cette période parce que c'est une période dont tout le monde se souviendra. Et quand je dirai à mes petits enfants j'ai sorti mon 4e album, j'avais pas le droit de sortir de chez moi, ça les fera rigoler, je pense.
Non, ils diront qu'est-ce que c'est un album, déjà, pour commencer. Non, je rigole.
T'es dur, là.
Voilà, donc Ben, anciennement Ben l'oncle Saul, interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet sbs.com.u/french. 13h58, retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. 317, c'est le nombre de cas de coronavirus déclarés dans les dernières 24 heures. C'est tout simplement le plus grand nombre jamais enregistré dans l'état du Victoria. C'est Daniel Andrews qui a annoncé ça il y a quelques heures. Les chiffres du chômage en Australie qui ne sont pas bons. On s'attend même à une augmentation encore du chômage d'ici prochain mois. Et en France, le nouveau Premier ministre a fait son discours de politique générale. C'est une coutume. Voilà, on arrive à la fin de notre programme en français sur Radio SBS. Prochain rendez-vous, c'est samedi à 13h et dimanche à 13h également. Rendez-vous également sur notre site internet sbs.com.u/french. Je vous laisse en compagnie de Pauline Croze et cette chanson que j'adore, Mise à nu. À samedi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.